Le prix Nobel de chimie 2020 a été attribué conjointement à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna. Les deux scientifiques ont découvert les ciseaux génétiques. Ces ciseaux génétiques peuvent permettre aux chercheurs de modifier l'ADN des animaux, des plantes et des micro-organismes avec une précision extrêmement élevée. Cette technologie a eu un impact révolutionnaire sur les sciences de la vie. Elle contribue également à de nouvelles thérapies contre le cancer et peut concrétiser le rêve de guérir de maladies héréditaires.
Emmanuel Charpentier est directeur à l'Institut Max Planck de maladies infectieuses de Berlin. Emmanuel a originellement préparé sa thèse à l'Institut Pasteur, puis effectué un stage postdoctoral aux États-Unis. Son retour en Europe l'a amené à Vienne, en Autriche, à Umeå, en Suède, à Braunschweig, puis Berlin, en Allemagne. Ses recherches sur les bactéries pathogènes, et notamment les streptocoques, et la régulation de l'expression de leurs gènes, l'ont amené à une découverte fondamentale, celle du trac ARN, qui a marqué une étape clé dans le développement de la technologie appelée CRISPR-Cas9, technologie qui permet des modifications ciblées des génomes. Elle obtint le prix Jean-Pierre Lecoq de notre Académie en 2014. Ce prix fut suivi d'une série impressionnante de beaucoup d'autres très grands prix.
Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine.
Notre collègue, Madame Charpentier, vient d'avoir le prix Nobel pour les ciseaux moléculaires, mais je crois que le gouvernement pourra avoir aussi un prix Nobel pour les ciseaux budgétaires. Parce qu'il a résolu l'équation, comment faire avec peu d'argent supplémentaire, 25 milliards, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que finalement le croix budgétaire, c'est-à-dire l'argent réellement donné à l'ESR, c'est sans doute 10 fois moins. Après, on pourra discuter sur les chiffres, mais ma collègue Laure Darcos l'a dit très justement, c'est une loi qui acte que la France renonce à l'objectif de 1%, c'est-à-dire renonce à diminuer le décalage que nous avons avec les pays européens qui sont à un niveau nettement supérieur. Donc là, il y a une forme de renoncement budgétaire que je trouve très triste. Sur les emplois, nous avons auditionné beaucoup de collègues qui nous ont dit que aujourd'hui, ils n'avaient aucune difficulté à embaucher qui ils voulaient, comme ils voulaient, sur la période de temps qu'ils voulaient. Il y a dans le code de l'éducation énormément de dispositions qui permettent d'embaucher hors contrat, et c'est pour ça que l'ESR dans la fonction publique est le domaine où il y a le plus de précarité, environ 50%. Pourquoi rajouter des éléments nouveaux alors que tout est déjà à disposition? Par ailleurs, la science française est extrêmement attractive. Parce que quand vous prenez les concours, par exemple celui du CNRS, vous avez beaucoup plus de candidats que de postes. Ce qui est la définition de l'attractivité. Donc sur ces deux points, je ne vois pas quel est l'apport de ce texte de loi. En revanche, il y a un certain nombre de points que nous eussions aimé y trouver et qui n'y sont pas. Vous l'avez dit très justement, la science a passé un très mauvais été. Et aujourd'hui, il y a un discrédit de la parole du scientifique qui pose un problème politique majeur et qui pose un problème y compris à la représentation nationale. On doit restaurer le statut de la science et de la parole scientifique dans ce pays, et je pense que dans ce texte, il faut absolument qu'il y ait quelque chose sur l'intégrité scientifique et sur les libertés académiques, parce que les deux sont intimement liés. Il faut que l'université, en tant qu'institution et en tant qu'campus, je reprends la formule de Jean Zay, soit l'asile inviolable de la liberté d'expression, de l'esprit critique et de la raison. Et je crois que ça doit être porté par ce texte de façon très forte pour que, comme vous l'avez dit, le lien distendu entre la République et les savants soit réparé par le biais de ce texte. Voilà.